bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons des traversées et de leur imaginaire, juste avant de faire le portrait de Jonathan Galassi. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Bonne surprise sur le marché du travail avec une baisse du chômage en France à son plus bas depuis 2012. La courbe serait-elle en train de s'inverser? On tentera d'y répondre avec Maxime Fayol. On parlera aussi du dumping sanitaire, une pratique dénoncée par des producteurs de fruits et légumes en France, nous dira Willy Moreau. Après l'armée, la fonction publique, l'éducation, la purge continue en Turquie et se concentre à présent sur les milieux d'affaires. Correspondance à suivre à Istanbul d'Alexandre Billette. Et puis les hostilités ont repris au Yémen, à très grande échelle. La coalition emmenée par l'Arabie Saoudite frappe lourdement ces dernières heures. Avec Nabila Hamel, on se demandera pourquoi ce conflit s'est rallumé. Une bonne surprise, je vous le disais, sur le marché du travail. Le taux de chômage baisse nettement au deuxième trimestre en France pour s'établir à son plus bas niveau depuis 2012, moins 0,3% à 9,9% de la population active en France. En métropole et outre-mer, c'est la première fois que l'on passe sous la barre des 10% depuis le troisième trimestre de 2012 précisément. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Une baisse du chômage, alors on va reprendre une phrase qu'on a tous en tête, François. Hollande a-t-il réussi son pari d'inverser la courbe?
Eh bien, si l'on s'en tient aux chiffres de l'INSEE, François Hollande réussit en tout cas le statu quo. 9,9%, c'est 0,2 points de hausse par rapport à son élection en 2012. Mais si on regarde les chiffres de Pôle emploi, qui recense tous les chômeurs, mois par mois, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même histoire. En mai 2012, la France comptait 4 800 000 chômeurs, toutes catégories confondues. Les derniers chiffres font état de plus de 6 millions de chômeurs, c'est 1 200 000 de plus sur tout le quinquennat. Mais que François Hollande se rassure, la hausse était à peu près similaire sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Mais pour le gouvernement, les vrais chiffres, ce sont bien évidemment ceux de l'INSEE. François Rebsamen, l'ancien ministre du Travail, déclarait en mai dernier que Pôle emploi n'est pas un outil statistique fiable. C'est normal quand on sait que inverser la courbe, c'est le credo de François Hollande depuis 4 ans. En 2012, il pensait le faire en un an, puis il a repoussé l'échéance à fin 2013, avant de déclarer en 2014 qu'il ne se représenterait pas en cas d'échec. L'INSEE vient donc d'apporter à François Hollande un crédit politique pour s'aligner en 2017. Un crédit temporaire, car les chiffres de Pôle emploi risquent de brouiller la donne pour le chef de l'État. Il a une petite semaine pour souffler. Pôle emploi publie ses chiffres mercredi prochain.
Maxime Fayol, connaissez-vous le dumping sanitaire? Le sujet a été mis sur la table par un syndicat agricole, le MODEF et le Parti communiste. Ce matin, dans le quartier de la Bastille, les Parisiens pouvaient acheter des fruits et des légumes, selon leur expression, à juste prix. Le dumping sanitaire fait que nous importons des fruits et des légumes traités avec des produits phytosanitaires interdits en France, Willy Moreau.
Oui, c'est un paradoxe. Prenez l'exemple de la cerise. La France interdit depuis avril l'utilisation du diméthoate. C'est un insecticide très critiqué, mais c'est l'un des plus efficaces sur les cerisiers. Principale conséquence, le rendement est plus faible cette année et les prix augmentent. Et finalement, la cerise française n'arrive plus à faire concurrence à la cerise allemande, par exemple, où le diméthoate est toujours autorisé. Et avec la libre circulation des produits dans l'Union européenne, eh bien, c'est tout le secteur qui est concurrencé pour Jacques Rouchausset, le président de Légumes de France.
Vous pouvez avoir des rendements qui sont moindres, parce que quand vous avez des attaques, eh bien, vous ne pouvez pas répondre à ces attaques puisque vous avez les produits qui sont plus autorisés chez nous. Ensuite, eh bien, vous avez un investissement qui est beaucoup plus important par rapport à la surveillance et par rapport à la veille de nos produits. Cette surveillance va accroître le coût de la main-d'œuvre qui est déjà beaucoup plus cher chez nous. En France, c'est 12,50 €. En Allemagne, c'est 6 €. Donc on a déjà le double au point de vue de la main-d'œuvre. Si en plus vous rajoutez des contraintes sanitaires supplémentaires, on s'aperçoit qu'on est en train d'accroître cette différence entre la France et les autres pays de la communauté européenne.
Alors si ces fruits et légumes arrosés de pesticides arrivent dans nos rayons, c'est pour plusieurs raisons. Un, difficile de tout contrôler. En 2014, la France a importé plus de 5 millions de tonnes de fruits et légumes frais. Deux, les règles sont très variées. L'utilisation de produits chimiques est limitée en fonction de la substance et en fonction de tels fruits ou légumes. Trois, difficile de contrôler le taux puisque certains produits sont volatiles et ne se retrouvent pas ou peu dans les légumes ou fruits concernés. Finalement, les associations appellent les consommateurs à acheter local, d'autant qu'en circuit court, cela ne coûte pas forcément plus cher.
Willy Moreau, j'ajoute sur le sujet cette étude publiée ce matin par la CLCV sur deux produits. Les consommateurs sont peu satisfaits du goût des tomates et des pêches blanches vendues en grande surface, même quand vous y mettez le prix, quand on paye un tout petit peu plus cher. Un autre combat mené en zone rurale, des populations qui se battent pour conserver leurs hôpitaux, leurs maternités de proximité. Une association qui les représente était reçue hier au ministère de la Santé pour dire leurs inquiétudes, car Lauriane Delanoë, plusieurs petites maternités ont fermé ces derniers mois où elles sont menacées de fermeture.
Plus d'accouchements à Pithiviers dans le Loiret depuis fin juin. Les futures mères doivent faire une demi-heure ou une heure de route pour aller à Étampes ou Orléans. Ce sera bientôt pareil à Langres, en Haute-Marne, où 300 bébés naissaient chaque année. Deux exemples d'une longue série, puisqu'en 40 ans, deux tiers des maternités françaises ont disparu, d'après un rapport de la Cour des comptes. En 2012, près de 550 maternités se répartissaient donc les 820 000 naissances annuelles. Le comité de défense des hôpitaux et des maternités de proximité s'inquiète maintenant de nouvelles fermetures. En cause, selon sa présidente, les groupements hospitaliers de territoire mis en place au 1er juillet. C'est comme une nouvelle carte sanitaire. Sur chaque territoire, l'offre de soins s'organise maintenant autour d'un établissement de référence. L'idée est de mutualiser les moyens, sauf que cela crée des usines à soins, proteste Hélène Desrien. Elle dénonce la marchandisation du service public. Les petites maternités ferment notamment parce qu'elles ne sont plus rentables. Il faut des obstétriciens et des sages-femmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais les hôpitaux sont financés avec un système de tarification à l'activité. Avec un ou deux BP par jour, ces cliniques de proximité sont donc souvent déficitaires. Pour Hélène Desrien, ces fermetures vont désertifier toujours plus les zones rurales. Elle s'interroge, quel gynécologue voudra s'installer dans une ville sans maternité à proximité pour assurer l'accouchement de ses patientes.
Lauriane Delanoë, merci. Les obsèques du syndicaliste Georges Segui, l'ancien secrétaire général de la CGT, c'était un samedi dernier à l'âge de 89 ans. Il a été inhumé ce matin dans le petit cimetière de Vieille Maison sur Joudry, un village du Loiret, en présence de l'actuel dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, et de Jean-Luc Mélenchon du Parti de Gauche. Après la violente bagarre de samedi dernier en Haute-Corse sur la plage de Cisco, 5 personnes vont comparaître tout à l'heure vers 15h devant le tribunal de Bastia. La lumière n'est toujours pas faite dans cette affaire, mais c'est la règle de la comparution immédiate. Ces 5 personnes devront répondre de violences avec armes ou de violences en réunion. Retour hier soir sur une séquence quelque peu étrange devant le camp militaire de Borgo au sud de Bastia où ces 5 personnes étaient attendues. Un rassemblement de soutien s'était monté de toutes pièces. Un rassemblement qui n'était là que pour soutenir les 2 villageois de Cisco et non les 3 autres hommes impliqués qui, eux, viennent de Bastia. Reportage sur place de Jean-Philippe Thibaudeau.
Un rassemblement dans le calme qui a réuni plus de 600 personnes. Sur place, Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée de Corse, et Gilles Simeone, le président de l'exécutif, ont joué les médiateurs pendant de longues minutes avec les autorités afin que la situation ne s'envenime pas avant de s'éclipser et de laisser le maire de Cisco, Ange-Pierre Vivogne, dialoguer avec la foule.
Nous avons les présidents, les responsables qui sont en train de parler. On ne va pas, nous autres ici, faire n'importe quoi.
Personne ne va s'agiter. On va rester dans le calme jusqu'au bout.
Absent plus d'une heure, Jean-Guy Talamogne et Gilles Simeone auraient eu, selon nos informations, un entretien avec le procureur de la République de Bastia. Entretien visiblement productif, puisqu'à leur retour, ils pouvaient annoncer à la foule la fin de la garde à vue pour les 2 habitants de Cisco.
Les personnes de Cisco devraient se voir signifier la levée de leur garde à vue. Demain, il y aura une présentation au tribunal de l'ensemble de l'affaire. Et le plus important, c'est que les gens du village de Cisco puissent rentrer chez eux, puissent être avec leur famille pour que la suite soit abordée avec sérénité.
Libérés peu après 22 heures, les 2 hommes quittaient la gendarmerie de Borgo, le poing levé sous les acclamations de la foule.
Reportage de Jean-Philippe Thibaudeau de France Bleu Radio Corse, Fréquenza Mora. Ce qui se passe en Corse depuis cette rixe, la démonstration à Bastia il y a quelques jours ou ce rassemblement que l'on vient d'entendre hier soir devant le camp militaire de Borgo, tout cela conduit SOS Racisme à s'interroger sur le rôle et le jeu des pouvoirs publics qui ont, selon l'association, chacun à leur manière, dit le communiqué de ce matin, montré de lourdes défaillances. Nous avons donc joint Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.
La communauté maghrébine a été stigmatisée lorsqu'il y a eu cette démonstration de force dans le quartier Lupinot de Bastia, puisque lorsque des gens manifestent au cri de « on est chez nous », on comprend bien que ça ne vise pas simplement les auteurs de la rixe, mais qu'il y a là une forme de globalisation qui est extrêmement dangereuse, parce que on ne peut jamais globaliser les comportements supposé de telle ou telle personne à l'ensemble des personnes qui partageraient une même origine. Cela n'a évidemment aucune validité et donc ce type de démonstration doit être condamné avec fermeté parce que c'est quelque chose qui contribue à exciter les esprits, à légitimer des sortes d'auto-justice ou de vengeance de façon totalement indiscriminée par ailleurs, et les pouvoirs publics ont cette responsabilité justement de faire en sorte de ramener le calme.
Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. En Turquie, nouvelle cible du pouvoir, les entreprises. L'offensive a commencé hier, un mois après le putsch raté. La chasse aux sorcières s'attaque au milieu d'affaires, à ces hommes d'affaires considérés proches de l'imam, le prédicateur Fethullah Gülen, l'ennemi juré du président Erdogan. À Istanbul, correspondance d'Alexandre Billette.
Après la fonction publique, l'armée, l'éducation, voici venu le moment des purges dans les entreprises réputées proches de Fethullah Gülen. Mardi, déjà 40 entreprises avaient été visées, 120 personnes placées en détention provisoire. Aujourd'hui, c'est une autre opération policière qui a eu lieu, notamment à Istanbul, contre 187 personnes pour lesquelles un mandat d'arrêt a été émis, incluant certains hommes d'affaires connus, selon la presse turque. Des opérations qui se sont déroulées au petit matin dans une centaine de lieux différents, mais on ne connaît pas encore l'identité précise des personnes concernées par les mandats, ni le nombre d'arrestations et celui des personnes toujours recherchées. Déjà fin juillet, les propriétaires d'une grande holding avaient été arrêtés, toujours pour les mêmes motifs, une proximité avec l'imam Fethullah Gülen, présenté comme le cerveau du putsch raté. Mais cette fois, l'ampleur des opérations est beaucoup plus importante et c'est toute la nébuleuse économique qui gravite autour de l'imam Gülen qui semble être dans le viseur des autorités, avec un risque déstabiliser l'économie turque déjà fragilisée.
Alexandre Billette à Istanbul, la Turquie qui au même moment poursuit ses opérations entamées il y a un an contre la rébellion kurde à l'Est. Dans cette ambiance d'après-putsch, la guérilla kurde teste les militaires et les autorités. En quelques heures, deux attaques ont fait au moins 6 morts et plus de 200 blessés. Depuis quelques jours, le conflit au Yémen s'est rallumé. On assiste à une nouvelle escalade. La coalition emmenée par l'Arabie Saoudite frappe très lourdement, sans discriminer, un hôpital géré par Médecins Sans Frontières, une école. Les rebelles répondent avec leurs obus, tuant côté saoudien 7 civils. Pourquoi ce conflit a-t-il repris ? Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Depuis plusieurs mois, il y avait des négociations, il y avait de l'espoir. Que s'est-il passé ?
Bien, c'est pour parler indirect, souvent on tue des hauts et des bas, et c'est d'ailleurs l'ONU qui les a suspendus le 6 août dernier en raison du manque de progrès. La base de travail était la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Il y est question du retrait de la rébellion chiite houthi des zones qu'elle occupe depuis 2014, notamment la capitale Sanaa, retrait censé intervenir dans un délai de 45 jours, en même temps que la restitution des armes lourdes. La deuxième étape aurait été la constitution d'un gouvernement d'union nationale qui inclut des représentants houthis. Seulement, après 3 mois de pourparlers poussifs, les rebelles houthis ont refusé cet ordre-là. Pour eux, la question prioritaire est celle de l'élection d'un président consensuel, la constitution d'un gouvernement inclusif, après quoi seulement interviendrait la discussion des arrangements militaires et sécuritaires.
Bref, depuis ce blocage, on constate tous les jours, Nabila, le rapport de force se joue sur le terrain politique et militaire.
Oui, d'un côté, les rebelles houthis et les forces fidèles à l'ancien président Abdelah Saleh ont constitué le 7 avril, au lendemain donc de cet échec, un conseil de gouvernement de 10 membres à Sanaa, comme cela a été vu comme une provocation par Riyad. De l'autre, la coalition menée par l'Arabie Saoudite, en soutien au président légitime Hadi Mansour, a repris ses bombardements aériens tous azimuts, vous le disiez, en dépit des différentes mises en garde de l'ONU et des ONG. En toile de fond de la crise yéménite, nous retrouvons la vieille rivalité sunnite-chiite, mais cette guerre en cache une autre, sunno-sunnite, si vous me permettez l'expression, car l'Arabie saoudite affronte également les fiefs d'Aqaba, Al-Qaïda dans la péninsule arabique au sud du Yémen. Or, un récent message du fils d'Oussama Ben Laden a appelé les Saoudiens à rejoindre Aqaba.
Anabila Hamel. Et puis en Syrie, cela fait un mois que les convois humanitaires ne peuvent plus atteindre les villes assiégées. Faisant ce constat, ce matin, les Nations Unies prennent la décision de suspendre le groupe de travail humanitaire mis en place pour organiser ces convois. Le temps de ce jeudi 18 août, des averses sur tout le nord-est, le nord, la Champagne-Ardenne, des frontières allemandes à l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. À l'ouest, des éclaircies reviennent du nord de l'Aquitaine, du Poitou-Charentes jusqu'au Berry, en Vendée, ciel ensoleillé, un peu plus voilé quand même sur les bords de la Méditerranée, un peu plus voilé que ces jours derniers. Les températures maximales, c'est plus frais. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, je vous retrouve à 18h.